Think Tank.
Lustig. Réflexion.
Sport und Staatsbürgerschaft.
Sport à obtenst.
Euradio Nantes, en partenariat avec Audencia, vous présente Sport et Citoyenneté, l'émission sur le sport au service de la société européenne.
Bienvenue sur Euradio. On est très heureux de démarrer cette nouvelle saison avec vous. Je suis Julien Jappert, directeur du think tank Sport et Citoyenneté. Et c'est une émission que l'on va faire en partenariat avec l'école de management Audencia Business School et le master spécialisé management des organisations sport d'Audencia. Un petit peu quand même de background sur Euradio. On est très heureux de démarrer sur cette radio qui est la seule radio européenne et citoyenne qui parle un petit peu de thématiques institutionnelles. Voilà pourquoi notre think tank s'inscrit complètement dans cette thématique. Pourquoi une émission sur le sport et l'Europe en particulier? Parce que, je le rappelle, 4 Européens sur 10 font du sport une fois par semaine. 35 millions d'Européens sont volontaires et bénévoles dans le sport. 700 000 associations sportives en Europe, d'où quand même une thématique porteuse pour les citoyens européens. Nous aurons Madame Sophie Oconi-Oro, députée et présidente, coprésidente de l'intergroupe Sport, Friend of Sport au Parlement européen. Nous avons en plateau Madame Papia Prigent, trois fois championne du monde de kayak, déléguée du ministère des Sports pour s'occuper du pôle sport et représentante aussi de l'association Femix. Nous avons Sandy Montanola, maître de conférence de l'université de Rennes 1. Je continue avec les filles, puisqu'il y en a une grande majorité de filles aujourd'hui et de femmes dans cette émission. Nous aurons Dominique Crochu, ancienne joueuse de football professionnel et dirigeante aussi de club de foot professionnel. Nous avons Amandine Luce à cette table, et je la remercie tout de suite, qui m'a aidé à préparer cette émission du think tank Sport et Citoyenneté et qui annoncera aussi les plages musicales de cette émission. Et enfin, Monsieur Stéphane Maisonna, qui est professeur aussi à Audencia et qui s'occupe des masters d'Audencia. Et nous aurons un étudiant, justement, de ce master que l'on va pouvoir appeler MOS, donc Management des Organisations de Sport, pour se faciliter un peu le débat, qui sera Charles Frédoué. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les invités. Et non, j'ai oublié Géraldine Ponce, qui nous rejoindra aussi par téléphone tout à l'heure puisqu'elle est en Italie. Géraldine Ponce, qui est journaliste chez Eurosport et qui nous racontera comment elle va organiser un petit peu cette journée du sport féminin du 1er février. Mais c'est vraiment pour annoncer notre partenariat que je donne la parole en premier à Stéphane. Stéphane, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter l'école, nous présenter le master et puis vous dire l'intérêt de faire cette émission sur cette thématique du sport et de la citoyenneté?
Merci Julian. Oui, donc Audencia Nantes, une école de management qui se situe, comme son nom l'indique, à Nantes, on va voir la petite exception, qui a différents programmes, donc un programme principal qui est un master grande école, des MBA, de la formation continue, et si on en vient donc à celui qui nous intéresse, des masters spécialisés, dans lesquels on retrouve un master spécialisé qui est donc le master en management des organisations de sport. Qui, exception, est à Paris. Celui-là. Donc, pour se retrouver plus proche, en fait, des organisations et du secteur même sportif. Et donc, effectivement, on a entamé une collaboration, un partenariat avec Sport et Citoyenneté l'année dernière. On travaille donc en collaboration sur différentes problématiques, comme celles que l'on va aborder aujourd'hui. Et ce sont ce type de problématiques auxquelles on va confronter également nos étudiants, qui arrivent, je dirais, avec leur vision, qui est peut-être une vision un peu restreinte de ce qu'est le secteur du sport et de ce qu'ils pourraient y faire, puisqu'ils veulent y travailler, en l'occurrence. Et donc, on va essayer d'ouvrir à ces différentes problématiques en les confrontant à des conférences comme celles que vous avez pu organiser. Je pense que vous en reparlerez plus tard. Et que l'on fait travailler directement, on le verra à travers l'exemple de Charles, là aussi un peu plus tard.
Merci beaucoup Stéphane et merci de nous suivre vraiment dans cette émission. Alors revenons à notre thématique du jour, la médiatisation du sport féminin. Je vais vous donner quelques éléments, quelques chiffres, mais je ne veux pas piquer la vedette à Sandy Montanola, donc je ne vais pas en citer énormément, ne vous inquiétez pas. Sur des chiffres européens, j'ai 37% des citoyennes européennes qui déclarent pratiquer un sport au moins une fois par semaine, un taux qui est finalement assez proche de celui des hommes. Et pourtant, on a ce chiffre qui circule partout en ce moment. 7% des événements sportifs diffusés aujourd'hui à la télévision concernent des compétitions féminines. Donc un énorme décalage. Un autre chiffre, et ce sera le dernier promis, 95% des compétitions féminines diffusées le sont sur des chaînes payantes. Donc avec une visibilité bien plus réduite. On va essayer d'aborder aussi la question de la mal-médiatisation. Hein, les femmes sont souvent, quand elles sont montrées médiatisées, présentées un petit peu comme, on va dire, un objet sexuel pour provoquer, mais on essaiera de débattre sur ce sujet. Et à ce moment-là, les sportives sont souvent interpellées sur des questions tout à fait extérieures à leur performance. Sandy Montanola, vous êtes maître de conférence et c'est votre sujet préféré et même, j'ai envie de dire, le plus approfondi dans vos recherches. Est-ce que vous pouvez nous faire une sorte de bilan de vos travaux, essayer de nous expliquer un petit peu cette thématique plus en profondeur et vous, ce que vous avez remarqué en France, peut-être même en dehors de nos frontières?
Oui, alors un bilan, ça va peut-être être un peu compliqué. Effectivement, il y a ces deux formes qui ressortent. Il y a une sous-médiatisation qui est, on va dire, patente des sportifs de haut niveau. Et il y a effectivement une médiatisation qui est relativement stéréotypée. Alors après, évidemment, il va falloir distinguer en fonction des types de médias. Ça dépend des médias, ça dépend des lignes éditoriales. Donc il y a effectivement des grosses différences. De la même façon, quand on parle de sous-médiatisation et de représentation stéréotypée, on va trouver, et donc je pense que c'est bien de ne pas en parler que pour les femmes, on le trouve également pour les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que le fait de poser des questions qui n'ont pas lieu, on va dire, par rapport au sport, par exemple, qui n'ont pas de lien particulier par rapport à des performances sportives, ça se retrouve aussi chez les sportifs de haut niveau. Donc c'est plus marqué, évidemment, chez les femmes, mais ce que je veux dire, c'est que cette médiatisation fonctionne, c'est un fonctionnement qui est relativement partagé, qui a généralement un lien avec les types de sport. C'est-à-dire qu'il y a des différences dans les médias, il y a des différences dans les sports. Et en gros, plus les sports sont des sports populaires et médiatisés, ce sera le cas du foot, et ce sera le cas du tennis, ce sera le cas du cyclisme, et plus on risque de trouver cette médiatisation avec des à côté, on va dire, par rapport aux performances sportives.
Qu'est-ce que vous entendez par des à côté?
Alors les à côté, c'est généralement tout ce qui a lien avec la famille, par exemple, où ça va être pour les femmes souvent. Donc là, par contre, on aura une grosse différence entre hommes et femmes quand on parle des à côté, entre guillemets, de la performance sportive. Pour les femmes, ça va être plus le lien avec... En fait, on cherche pour les femmes une sorte d'explication de pourquoi elles sont venues dans un milieu qui n'est pas un milieu très ouvert aux femmes. Donc on va le trouver généralement dans la famille. Donc un père qui est lui-même sportif, par exemple, ou un frère qui aurait pu inciter, etc. Chez les hommes, on va assez peu chercher comment ils sont venus au sport, parce que ça paraît naturel, qu'on ne se pose pas la question. Donc pour les hommes, on va essayer plutôt de parler des à côté. Et là, encore une fois, on est plus sur du storytelling, donc ça dépend des sports. Par exemple, en boxe, il y a quand même cette notion de violence. Donc pour un homme, on va aller chercher un peu une notion d'humanité. Donc on va parler beaucoup de sa femme. C'était le cas de Maher Monchikpour, par exemple. On revenait sans cesse sur sa femme, sur ce qu'il faisait à côté. Il était très engagé dans une association iranienne. Donc c'est l'idée aussi de donner corps à un personnage et de pouvoir mettre en relief finalement des performances sportives, leur donner une histoire, les mettre, on va dire, leur donner un sens. Et là, cette construction de sens du spectacle sportif se fait pas du tout de la même façon chez les hommes et chez les femmes.
On ne peut pas faire de storytelling avec les femmes, alors pourquoi on n'en fait pas?
On en fait, mais pas sur les mêmes thèmes. En fait, c'est là que les thèmes sont très différents. On fera On va construire des histoires, mais pas les mêmes types d'histoires. Parce que ce qu'on cherche, c'est pas la même chose. Voilà. Et donc là, on renvoie très clairement à des représentations sociales. Et les représentations sociales existent pour les femmes, mais elles existent aussi par type de sport.
Mais ça, c'est du sexisme ?
Alors là, oui, en l'occurrence, c'est du sexisme. Mais il y a du sexisme, mais ça fonctionne, et je le rappelle parce qu'il me semble que c'est quand même important de prendre en compte les deux sexes ensemble. L'idée, c'est que ça existe aussi chez les hommes. Cette correspondance entre un physique, par exemple, et un sport, on sait qu'il y a des physiques types pour certains types de sports, des gabarits, ce qu'on appelle un gabarit idéal par sport, et ça va être commenté, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. C'est-à-dire qu'un homme qui ne correspond pas au gabarit du type de sport qu'il fait, on va y revenir aussi. Mais encore une fois, sur ce storytelling, il y a des différences, mais dans les deux cas, on construit quand même cette histoire. On l'a fait pour la boxeuse Myriam Lamar, on a ce storytelling. La différence, c'est que pour elle, c'est comme souvent quand une femme pratique un sport qui est plutôt un sport de tradition masculine, l'idée, c'est d'expliquer son histoire par l'idée d'être une femme qui se bat pour avoir le droit de devenir une boxeuse. Ce qu'on n'aura pas, évidemment, du côté masculin.
Alors, Sandy Montanola, qu'est-ce que vous préconisez pour améliorer cette médiatisation du sport féminin ? Parce qu'on est quand même face à des injustices, face à des inégalités flagrantes que vous constatez en permanence, puisque vous travaillez sur cette thématique, au moins en France, je ne sais pas quel est votre champ d'étude, mais au moins en France, on constate ça. C'est quoi vos préconisations ? C'est un changement des mentalités ? C'est l'imposer ? C'est quoi ?
Alors oui, ça va passer par un changement des mentalités. Maintenant, je pense que, par exemple, sur les études qui ont pu être faites, qui sont faites sur la médiatisation des femmes, et pas juste des femmes sportives, les préconisations, généralement, c'est aussi de former les journalistes. On sait que tous les journalistes ne sortent pas d'école de journalisme, donc c'est difficile aussi de pouvoir mettre en place vraiment quelque chose, par exemple, je parle ici juste pour les journalistes. Après, on a une reproduction. La reproduction, c'est-à-dire que, généralement, les groupes de travail qui vont faire partie des médias, généralement des cellules marketing, recherche et développement, etc. L'idée, ça va être de dire, les gens sont plus intéressés par le sport masculin, donc c'est ce qui marche le mieux, donc en termes d'audience, en termes de vente, on va continuer à faire du sport masculin. L'idée, en termes de réflexion, en tout cas la préconisation qu'on peut faire, c'est que le sport et les médias sont, on va dire, ils ont toujours fonctionné ensemble. Ils se sont développés ensemble et en l'occurrence, les médias ont beaucoup construit les lieux de spectacle. Et là, l'idée, ce serait évidemment de fonctionner de la même façon pour le sport féminin, ce qui ne se fait pas.
Pourquoi ça ne se fait pas ? Vous l'avez effleuré un peu la thématique, c'est quand même une question commerciale. Hein ? Ouais. On est d'accord, aujourd'hui les médias, et on va parler tout à l'heure à une représentante d'Eurosport, n'ont pas ou ne font pas cet effort parce qu'il y a un taux d'audience qui est attendu, et évidemment, quel que soit le modèle, publicité ou abonnement, derrière il y a un objectif commercial. Ouais. Mais moi j'ai envie de comparer ça un petit peu à la nourriture qu'on peut donner à nos enfants. On a envie, et on le voit, il y a des campagnes maintenant, hein, qui mangent et bougent, 5 fruits et légumes par jour. On doit aussi éduquer un peu, comme éduquer les enfants à la bonne nourriture, on doit les éduquer un peu les téléspectateurs à ce sport féminin. Et si les médias ne prennent pas un risque, ça ne pourra pas se faire. Vous l'avez dit, c'est interconnecté. Comment on pourrait arriver à faire prendre ce risque aux médias ? Et on voit quand même que parfois, quand ils le prennent, ce risque, ils font de l'audience. On est d'accord ?
Oui, oui, ils font de l'audience. Et en l'occurrence, les audiences fonctionnent relativement bien. Après, je pense qu'il y a aussi une façon de faire. Pour prendre un exemple qui est cette fois plutôt issu de la presse magazine, on a eu une tentative avec l'équipe qui, en plus de l'équipe magazine, lance l'équipe féminine. Ça a duré 2 ans. L'idée, c'était d'aller chercher, alors en partenariat avec Elle, qui était un magazine féminin. Le partenariat s'est ensuite arrêté, mais la tentative était intéressante. Après, en termes de retour, ce qu'on a pu avoir, notamment la rédactrice en chef de l'époque, qui expliquait que on n'a pas forcément, en termes de, on va dire, de lancement, on n'a pas forcément les moyens. C'est un contexte de crise pour la presse écrite, etc. Donc ça veut dire que le lancement est fait, on va dire, un peu au rabais, on va, là en l'occurrence c'était pas vendu mais donné en plus de l'équipe magazine, et on regarde en fait si en termes de publicité ça fonctionne, sauf qu'il n'y a pas de création de poste en particulier, donc il n'y a personne qui peut aller chercher les publicités, et du coup on va dire bah, ça n'intéresse pas vraiment, donc on ne sait pas. En fait, en termes de retour, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de sportives qui ont pu en parler en disant on attendait vraiment quelque chose, mais on n'attendait pas quelque chose spécifique aux femmes, sur les femmes, on attendait à ce que les femmes aient leur place dans l'équipe et dans l'équipe magazine. Donc ça veut dire qu'il y a aussi finalement une image des femmes sportives qui, voilà, qui plaisait pas forcément et qui fait que ça, on a du mal à trouver un peu le public. Donc ça dépend aussi de ce qu'on propose. Donc il y a la question marketing, mais il y a aussi l'image qu'on propose du sport féminin. Là, en l'occurrence, on était sur du sport de haut niveau, mais avec des questions sur comment je peux faire de l'athlétisme tout en étant bien coiffée. Enfin,
merci beaucoup Sandy Montanola, vous êtes là avec nous, donc vous pouvez intervenir quand vous voulez. Papia Prigent qui est en train de s'étouffer, est-ce que c'est parce qu'on a cité quelques chiffres, Papia, que vous étouffez?
Non, c'est la météo là qui est perturbée en ce moment. Non, alors, vous... Évidemment les chiffres me font toujours bondir, mais...
Voilà, donc vous êtes sur le terrain, hein, vous avez été trois fois championne du monde dans un sport qui déjà a un problème de médiatisation, hein, parce que c'est des sports qui sont plutôt médiatisés avec les JO.
Les Jeux Olympiques, hein, voilà.
Et puis, en plus, vous êtes en charge du Pôle Espoir...
Pôle Espoir et Pôle France.
Et Pôle France. Féminin,
alors,
ou féminin,
non,
masculin?
Notre discipline, même si elle a une connotation très masculine, à peu près 25% seulement de licenciés féminines, est un sport mixte, complètement mixte, avec les mêmes épreuves. Donc ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients que je pourrais citer. Et donc je m'occupe d'un pôle qui est complètement mixte. Mais bon, il faut savoir que je crois que c'est par le quotidien qu'on fait évoluer les mentalités. Donc moi j'ai eu la chance, par ma fédération, d'être chargée de mission sur un groupe de travail CK au féminin. Comment se développer, comment passer en loisir? Il y a à peu près 50% de femmes qui pratiquent, ce qui représente la représentativité nationale. Autant de femmes que d'hommes. Et en compétition, c'est pas du tout le cas. On tombe à moins de 25%. Donc on s'est posé la question et on a, pendant 2 ans, fait un diagnostic, un état des lieux, et qui a donné lieu à un rapport avec des préconisations. Et donc moi, j'avais la chance de pouvoir au quotidien au moins tenter de mettre en œuvre ce dont je parlais. Ce qui fait qu'au pôle, on a très bien évolué, puisque donc tout n'est pas perdu. Depuis 2008, nous sommes passés de 4 filles sur une trentaine d'athlètes à 8, puis 12, puis aujourd'hui c'est 34 athlètes, dont 17 filles et 17 garçons. Donc on a obtenu la parité, mais ça s'est pas fait comme ça. On a aussi dans le même temps obtenu la parité d'encadrement. Donc aujourd'hui, je dirige une équipe de 6 personnes, dont moi, avec 3 femmes, 2 femmes entraîneurs nationales plus moi, et 3 hommes entraîneurs nationaux.
Donc là, on est vraiment dans le cadre presque d'une bonne pratique, j'ai
voilà,
envie de
exactement.
Dire, dans l'encadrement, dans la parité en termes de nombre de pratiquants et pratiquantes. Pour revenir à notre thématique du jour, vous êtes une très bonne pratique, vous êtes un sport qui a un succès, qui est bien médiatisé au JO. Est-ce qu'il y a foule de médias lors
non,
de
alors
vos
voilà,
entraînements?
Le problème, il est juste que bonne pratique, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est juste chez nous, parce qu'il y avait la volonté de le faire. La médiatisation, on reprend ça dans vraiment de face. Chez nous, Tony Estanguet, on peut imaginer que certains connaissent, mais qui connaît notre première championne olympique française, qui c'était à Londres l'an dernier, Émilie Fer, qui a regagné le championnat du monde. Et la médiatisation, malgré la bonne volonté de notre fédération,
alors, qu'est-ce qui
il
n'y
en a pas derrière.
Qu'est-ce qui se passe, Papia? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que vous êtes 3 fois championne du monde, donc vous êtes 2 fois plus championne du monde que Zidane.
Alors,
qu'est-ce qui se passe?
Donc, on reste un sport amateur. Donc déjà, c'est vrai qu'on n'a pas les plages de retransmission télé, radio des sports professionnels, ça on le sait. Après,
mais l'exploit est le même, on est d'accord.
On est d'accord. Le peu de fois, donc là c'est encore un autre problème, la différence entre sport amateur et sport professionnel au niveau des images télé. Mais en tout cas, au moins, chaque fois qu'il y a le spot sur nous, notamment aux Jeux Olympiques, je crois que ce qui se passe, c'est que quelque part, eh ben, il faut former en effet les gens qui font de la radio, qui font des médias, les journalistes qui vont chaque fois qu'une femme et au plus haut niveau, plutôt s'attacher à savoir comment elle a géré son enfant, pas d'enfant, son ami, etc. Alors que Tony Estanguet, on va s'intéresser à la performance et on va créer un personnage, un athlète représentatif de ce qu'est le sport en France. Et je pense que derrière, avec Émilie, on peut faire ça, mais il faut vraiment éduquer les personnes qui nous entourent à s'intéresser à la performance féminine pour ce qu'elle est, et non pas vouloir la comparer à celle des hommes. De la même manière qu'il ne faut pas vouloir comparer le canoë-kayak au football, c'est pas du tout la même chose. Et on a le droit d'exister en tant que sport à part entière, amateur, certes, de pleine nature, très différent d'un sport co. Et la femme, au sein de ça, a trouvé sa place auprès des médias en tant que sportive féminine ayant son niveau de performance et sa manière de naviguer, même si nous, on est sur les mêmes parcours.
Vous pensez que votre championne olympique fera la une de l'équipe ou pourrait faire?
Oui, oui. Donc, elle l'a fait pour les Jeux olympiques, toutes les championnes olympiques. On a Julie Bressé aussi en vélo. Ces filles-là montrent, c'est une grande avancée, parce que ça montre à d'autres filles, d'autres femmes, tout comme moi j'essaye de le faire, qu'on peut devenir entraîneur national, qu'on peut devenir championne olympique et qu'on a sa place dans les médias. Et elle est allée au grand journal, elle a fait des trucs, il faut tout accepter, c'est sûr. Et puis il faut aussi prendre sa place, prendre notre place, c'est pour ça qu'on est là, entre autres.
Vous êtes satisfaite aussi de la couverture médiatique d'une chaîne de service public qui a une mission de service public sur votre sport?
Bien sûr que non, c'est pas suffisant. Alors je pense pas forcément à la télé, mais là très récemment, ça me choque chaque fois que je joue la radio quand France Inter annonce l'élection du sportif de l'année et dedans il y a les femmes. Mais comment voulez-vous que les femmes y aient de la visibilité puisqu'on commence par annoncer que c'est le sportif de l'année. Donc c'est quand même compliqué pour les gens, ne serait-ce même que de voter pour les femmes qui font partie des 15 possibles. Alors que bon bah c'est France Inter quoi. Donc c'est un peu décevant parce que juste avant on entend un spot sur l'égalité, la parité, l'accession aux responsabilités, etc. Mais juste derrière le discours, rien que le discours, et cette fameuse grammaire française qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin, ça c'est terrible.
Stéphane, une petite réaction?
Une petite réaction, je note, j'ai noté deux phrases qui m'ont particulièrement marqué. C'est celle en particulier de dire que c'est le quotidien qui fera évoluer les mentalités. Et je pense que c'est effectivement parce qu'on peut, cette sous-médiatisation, elle est vraie pour des plus petits sports. Elle peut toucher plein de monde parce qu'ils ne vont pas rapporter d'audience. Et par contre, c'est, je pense, un débat plus de fond de faire évoluer les mentalités et les pratiques, de montrer que, oui, il y a des femmes qui occupent certains postes et il faudrait qu'il y en ait plus qui occupent des postes dans le secteur du sport. Et à partir de là, ça deviendrait effectivement normal d'en parler aussi.
Merci, je vais donner la parole à Amandine qui nous a préparé cette émission et qui va nous expliquer la première pause musicale.
Merci Juliane. Alors on va rester sur le thème des femmes et on va écouter pour cette première pause musicale Womanizer repris par Lily Allen. Superstar, where you from, how's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are. What you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with their strings up. Faking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, what you are, baby. Just what you are, boy, don't try to front, not just what you are, you say I'm crazy, I got you crazy, you're nothing but a womanizer. Daddy-o, you got the swagger of a champion, too bad for you, you just can't find the right companion. I guess when you have one too many makes it hard, it could be easy who you are, that's who you are, baby. Lollipop, must mistake me, you're the sucker. To think that I would be a victim, not another. Say it, play it how you wanna, but no way I'm ever gonna fall for you. Just what you are, you got me going, you're so charming, but I can't do it.
Bonjour, Madame Sophie Oconi, qui nous a rejoint. Merci beaucoup. Vous êtes eurodéputée, très investie sur les questions de sport et souvent à nos côtés, sport et citoyenneté. Merci beaucoup pour ça. Merci de rejoindre notre émission. On espère vraiment, c'est un petit message personnel que je vous passe, que vous serez aux prochaines élections européennes avec nous. On a besoin de vous au Parlement européen. Et on compte sur vous.
Je vous remercie infiniment.
On est aujourd'hui sur une thématique médiatisation du sport féminin suite à notre dernière conférence. Et on sait que vous êtes beaucoup investi sur cette thématique qui vous révolte pas mal quand on sait, on l'a rappelé, que 7% c'est le chiffre de la diffusion du sport féminin en France. Mais on est assez voisins sur ce chiffre en Europe. Oui. Et je vais vous laisser tout de suite la parole. Je sais que à travers la directive Télévision sans frontières, vous avez des idées et des projets et des actions que vous voulez mener au Parlement européen et pour sensibiliser aussi la Commission européenne.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que, tout d'abord, je considère que dans quel que soit le genre, le sport est un outil de santé sociale, est un outil de santé publique, bien évidemment, et puis aussi un outil de santé économique. Et qu'à ce titre, on doit valoriser le sport dans tous ses aspects, y compris, effectivement, valoriser le sport féminin, ce qui, à travers la médiatisation, à travers les médias, est à mon sens le meilleur outil. Le sport féminin est un très beau sport. Il vaut largement, sans qu'on l'oppose, hein, mais il vaut largement la qualité du sport masculin. Nous avons une équipe de handballeuses qui malheureusement a été battue hier, mais qui est une équipe absolument remarquable. Nous avons une équipe de basketteuses qui a raté de peu le titre de champion d'Europe. Nous avons une équipe féminine de football qui a remporté de belles victoires l'année dernière. Bref, nous avons un sport féminin qui mérite d'être médiatisé. Je regrette que ça ne le soit pas. Et donc, effectivement, à travers la directive Télévision sans frontières, je souhaite que nous imposions l'Europe, l'Union européenne, et là est son rôle complètement, que nous imposions sur les chaînes publiques un certain quota de retransmission de championnats, en tout cas de matchs qui valorisent des équipes féminines. Ça me semble être un moyen très concret de le faire, ça me semble très opportun, et puis ça me semble être totalement l'objet et la philosophie du Parlement européen sur ce sujet.
Effectivement, quelles sont les actions donc que vous allez mener? Est-ce que vous allez essayer d'abord de faire un rapport, un diagnostic qui soit de niveau peut-être européen, parce que là on est sur un diagnostic très français. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? Et je crois qu'il y a une question écrite aussi qui est en préparation.
Tout à fait. Alors effectivement, il y a tout d'abord, le sport est une compétence européenne depuis très peu de temps, seulement depuis 2009, depuis le 1er décembre 2009. Donc ça fait quatre ans. Donc ça fait très peu de temps. Il faut que nous regardions un petit peu tous les volets qui intéressent le monde du sport. Cet aspect de la féminisation est un aspect extrêmement important, surtout à l'heure où l'Europe porte l'égalité homme-femme dans tous les axes. Donc le sport en est un, bien évidemment. Alors effectivement, l'idée pour nous est de mettre en œuvre un livret blanc ou un livret vert ou un livret bleu, en tout cas un livret qui va permettre de faire un état des lieux sur quid du sport féminin dans les 28 États membres de l'Union européenne, mais quid aussi de sa gouvernance. Moi, je pense qu'il faut que nous parlions de la gouvernance. Moi, j'aime bien rappeler qu'en France, 81 fédérations de sport, seulement une est présidée par une femme. Donc la gouvernance est un vrai sujet, parce que la féminisation passe aussi par la gouvernance. Et puis la médiatisation. Qu'en est-il de la médiatisation des sports féminins? Une fois que nous aurons fait l'état des lieux, alors nous allons saisir le commissaire européen chargé du sport et de la culture et des médias afin de mesurer avec lui de quelles contraintes, quelle incitation, soit contrainte, soit incitation, en tout cas dans quelle mesure on peut imposer un quota de retransmission de matchs féminin sur les chaînes publiques. Ça, c'est un vrai sujet et ça fera l'objet d'une saisine très officielle après un travail qui sera un état des lieux approfondi de ce qui se fait dans les différents États membres, mais aussi de ce qui se fait dans les pays où le sport féminin est reconnu comme une véritable valeur ajoutée à la culture et aux médias.
Alors, Madame Occoni, on a bien enregistré et j'ai autour de la table et sûrement chez les auditeurs beaucoup d'attentes sur ce sujet de sportives, évidemment, et d'associations. On a des représentants de la FEMIX, là, aujourd'hui, lors de cette émission. On a des chercheurs. Tout le monde attend un petit peu ce qui pourrait se passer au niveau européen.
Tous les acteurs vont être rencontrés. Nous allons organiser des travaux de réflexion et puis nous allons identifier clairement dans chacun des États membres le parlementaire national ou la parlementaire nationale qui a dans son portefeuille le sport afin de travailler avec lui ou avec elle à cette identification. Moi, mon objectif clairement, il est que tout soit prêt pour lancer l'initiative le lendemain des élections avec le commissaire européen qui sera affecté au sport, sachant que je veux être investie, je serai élue, parce que je fais un travail de terrain qui ne peut que payer, donc je serai élue, et à ce moment-là, je veux reprendre la présidence de l'intergroupe sport et participer surtout de façon active à la commission des cultures et sports du Parlement européen, c'est-à-dire mettre tous les atouts dans mon jeu pour dès les élections passées, c'est-à-dire dès le 26 mai, lancer l'offensive parce que nous aurons réuni d'ici là tous les éléments utiles à lancer cette offensive.
Merci beaucoup, Madame la députée. À très bientôt. On a bien pris note de ces initiatives et on s'en réjouit. Nous avons avec nous maintenant Géraldine Pons, que les amateurs de sport connaissent bien, en particulier ceux qui regardent Eurosport ou ceux qui regardaient avant LCI. Géraldine, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Alors Géraldine, il a été annoncé les 24 heures du sport féminin. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur les secrets, nous dévoiler quelques secrets d'Eurosport en particulier? Alors on essaiera évidemment de réfléchir ensemble sur la thématique de la médiatisation du sport féminin, mais quand on a vu que le CSA lançait cette initiative, on s'est tous réjouis, et c'est vrai que Eurosport est un petit peu en avance, précurseur sur ces thématiques. Est-ce que vous pouvez alors peut-être éventuellement nous rappeler le travail d'Eurosport sur la médiatisation du sport féminin et nous dévoiler quelques secrets sur ces 24 heures du sport féminin?
D'accord. Alors, sur la médiatisation du sport féminin, effectivement, on a coutume de dire chez nous, et c'est mon directeur de la rédaction qui dit souvent cette maxime, le sport féminin, c'est pas une option, c'est une obligation. Mais on le sent vraiment pas comme une obligation à Eurosport. Ça fait quelque temps maintenant qu'on est engagé dans ce sport féminin par la WTA dans le tennis, qui a été très forte sur Eurosport pendant des années. C'est toujours le cas avec les sports d'hiver, et ça depuis longtemps, que ce soit en ski de fond, en biathlon, en ski, en patinage, les courses féminines, les épreuves féminines ont toujours été retransmises à hauteur des garçons d'ailleurs. Donc il reste maintenant un travail à faire sur le sport collectif. Petit à petit, on y arrive. On a du foot féminin, on a pas mal de choses qui arrivent à l'antenne. Voilà, c'est peut-être un peu plus lent sport collectif, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu vraiment de différence sur Eurosport entre le sport masculin et le sport féminin. On arrive à traiter les deux avec cette petite nuance sur le sport co, et ça évolue vraiment. Alors maintenant, pour ce qui est de la journée du 1er février, on est en pleine réflexion, je vais pouvoir vous livrer quelques petits secrets de fabrication, mais on en discutera aussi ensemble, Julien, je pense.
J'espère.
Elle débutera chez nous le 31 janvier à l'occasion de l'Open GDF Suez. avec le lancement de cette journée avec des personnalités politiques officielles. Donc ce sera à 18h pour les quarts de finale de ce tournoi féminin dès le samedi. Et puis ça s'enchaînera toute la nuit avec des retransmissions d'événements féminins et puis des événements en direct dès le samedi. Alors ça tombe bien, c'est une très très bonne journée pour nous parce qu'il y a du ski alpin dames, du ski de fond dames. En prime time, il y aura un match de D1 féminine en football. Il y aura les demi-finales de l'Open GDF. Donc voilà, et puis on aura un plateau hors-piste qui sera féminisé avec un présentateur masculin parce qu'on va pas faire que des filles aussi parce que justement, peut-être tomber dans l'excès, ça serait peut-être trop. Donc on reste avec notre présentateur masculin, mais il y aura toutes les intervenantes féminines des sports divers sur le plateau. Et puis on est en train de réfléchir à la possibilité d'avoir deux émissions, une le matin, une le soir, pour évoquer justement ce dont vous parlez avec vos intervenants précédemment et ce que vous allez dire tout à l'heure, mais évoquer toutes les problématiques et puis les grands thèmes qui ont attrait à la médiatisation du sport féminin. Voilà, en gros, tout ça, je peux vous dire qu'on va essayer aussi d'aller voir quelques grandes athlètes féminines, prendre leurs sentiments sur vraiment les questions qui les perturbent, ce qu'on pourrait améliorer, parce que toutes les filles ont aussi pas mal d'idées hein, sur la médiatisation du sport féminin, des idées auxquelles on pense pas forcément. Et voilà, et je pense qu'en se nourrissant des expériences des uns des autres, on va arriver à faire de très bonnes choses pour ce sport féminin.
Merci Géraldine. En interne, vous sentez que c'est une action qui va être, comme on est sur une chaîne européenne, on peut prendre des expressions anglaises, un one shot, un seul coup, ou qui pourrait amener aussi chez Eurosport, même si les mentalités sont peut-être en avance, des réactions spontanément faire ça d'autres fois ou construire des grilles plus égalitaires.
Alors j'espère que ce sera un one shot. Parce que c'est comme la journée de la femme, ça me rend un peu hystérique. Voilà, la journée de la femme, c'est juste, on en a une par an, faudrait qu'on fasse tout pour les femmes une journée par an. Donc moi, j'espère que ce sera un one-shot pour qu'on se dise, finalement, on va essayer de répartir la grille un peu mieux. Et c'est, je pense vraiment à la réflexion de notre direction aujourd'hui, de se dire, voilà, on a un panel de sports très intéressant sur Eurosport. On a du sport féminin aussi à faire valoir, et c'est vrai que c'est une vraie valeur ajoutée, comme le disait votre intervenante tout à l'heure. Donc, essayez peut-être de doser un peu plus intelligemment notre grille de programme sur ce sport féminin. Voilà, si on a besoin de journées spécifiques au sport féminin, ah ben moi je serai la première à y aller, à le proposer, à travailler dessus. Mais j'espère qu'on va tous prendre conscience que voilà, on est sur une route, on est engagé sur une route de développer ce sport féminin, bah, qu'il faut continuer et qu'il faudrait plus de journées comme ça pour rappeler à tout le monde que, attention, il y a du sport féminin, c'est aussi très beau, c'est aussi très intéressant. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on y aille dans cette voie-là.
Merci beaucoup Géraldine, je sais que vous êtes en Italie, je ne sais pas ce que vous couvrez en ce moment, mais peut-être...
Bon, on est sur les Universiades et on aura une émission demain en direct aux alentours de 21h et on a choisi justement de faire cette émission à l'issue d'un slalom féminin.
Génial, voilà. Géraldine, on a hâte de ces 24 heures du sport féminin. On vous suivra. Très bonne fin d'après-midi. Des réactions sur le plateau. Les politiques se mobilisent, les médias se mobilisent. J'imagine qu'il doit y avoir des réactions plutôt agréables sur notre plateau, Stéphane.
Bah, mitigé, réaction très agréable face à ce que font les médias, de telles initiatives sur lancer des événements. Les politiques, est-ce que c'est vraiment en passant par la loi, par la voie de la légifération qu'on va trouver ces solutions? Parce qu'on n'a pas fini, parce que après, pourquoi pas le handisport aussi, le légiférer, et tout va être tellement découpé dans ce qu'on va devoir faire qu'on ne s'en sortira pas, et quelque part on forcera peut-être, et ça ne plaira pas forcément.
Oui, alors effectivement, on a eu ce débat lors de notre dernière conférence au CNOSF et on avait un représentant de notre comité scientifique qui était en plus avocat, donc qui confirmait ça. Cette histoire des quotas, Sandy, imposer ça, est-ce qu'il faut l'imposer? C'est vraiment une vraie problématique. Est-ce que quand les mentalités évoluent pas, est-ce qu'il faut imposer? Est-ce que le droit va pas compliquer un petit peu toutes ces histoires de diffusion? J'aimerais une réaction de la chercheuse et de la sportive ou en charge du sport, s'il vous plaît.
Ouais, moi, il me semble, je ne sais pas si c'est la question du quota, mais par contre, ce qui est important, c'est de bien prendre en compte le fait que ça reste aussi une question qui est une question politique, clairement, et qu'on a toujours cette impression que le sport, y compris dans les médias, s'est traité un peu différemment du reste des spécialités, et que le sport, c'est quelque chose pour lequel on n'aurait pas besoin finalement d'aller comme ça prendre certaines décisions, etc. Et y compris, je pense surtout dans les distinctions entre hommes et femmes, on a cette idée que puisque ça touche le corps, puisqu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, il y aurait cette différence entre guillemets un peu naturelle. Et je pense que c'est important de revenir au fait qu'il n'y a pas cette différence naturelle, que c'est pas le fait qu'il y ait éventuellement des différences qui expliquent le fait qu'il y ait une médiatisation différente et qu'il faut bien différencier les deux et que c'est peut-être en passant quand même par un discours, une prise en compte en tout cas d'un discours politique sur le sport qui reste un objet politique qu'on y arrivera. Donc ça me semble quand même important.
Papia.
Pour ma part, moi je crois que une association comme Femix, elle a vraiment besoin d'être là pour au quotidien que les mentalités, que les choses bougent. Cette journée du 1er février, c'est super. Je suis tout à fait d'accord avec la journaliste quand elle dit qu'il faut que ce soit one shot, sinon c'est pas tolérable. Mais je crois que ce qui est important, elle en a parlé, la députée, une seule femme présidente de fédération. Je crois qu'il doit y avoir peut-être une DTN ou deux DTN. Je crois que ça commence par, malheureusement, peut-être des quotas pour donner de la responsabilité et la place aux femmes auxquelles elles ont droit. Parce que malgré tout, l'expérience dont j'ai parlé dans le pôle, c'est malheureusement la seule en France. Parce que quelque part, il y a eu des femmes à avoir une attitude attentionnée sur faire évoluer des mentalités. Et quand on voit que ça se passe bien, et on sait que dans les entreprises où il y a la mixité, ça se passe bien, ça se passe mieux. Donc coller aux endroits où ça vient pas naturellement, parce que dans ma discipline, ça vient pas forcément naturellement, canoë, kayak, d'eau vive notamment, et ben je crois qu'il faut quand même pas avoir peur d'imposer certaines choses parce que ça ne bouge pas assez vite et tant qu'on n'aura pas les bonnes personnes aux bonnes places pour faire évoluer ça, on va pas y arriver.
Le débat est lancé. Moi, je suis juriste aussi, donc j'aurais tendance à passer par le droit, même si parfois ça complique. Et je me rappelle un sujet il y a quelques années, quand j'étais gamin, c'était l'accès pour les handicapés, justement, aux lieux publics. Il a fallu l'imposer, parce que c'est pas venu naturellement. Donc je me questionne quand même. Je crois que, encore une fois, la vérité est peut-être entre les deux. Alors, on a Charles Frédouet en ligne, qui est dans le master d'Audencia, le MOS, Management des organisations de sport. Charles, bonjour.
Bonjour.
Charles, vous êtes un futur dirigeant du monde du sport. Oui. Quand vous entendez ces chiffres affolants sur la médiatisation du sport féminin, mais aussi la non représentativité aux postes à responsabilité, mm-hmm. ou encore des inégalités salariales, vous êtes dans une école où on vous apprend, j'imagine, je parle sous le contrôle de Stéphane Maisonna, on vous apprend à être de futurs dirigeants. Est-ce que vous êtes sensible à ces questions? Je sais aussi que vous étiez présent à la conférence de notre think tank. Oui, est-ce que vous êtes sensible à ces thématiques et est-ce que c'est des problématiques dont vous allez tenir compte plus tard dans vos métiers?
Alors oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Déjà, on remet ça sur le devant de la scène médiatique au jour d'aujourd'hui, mais ça fait très longtemps que ce problème doit être traité. Et on nous apprend justement dans notre formation à avoir cette approche globale de toutes les problématiques du monde sportif qui nous appartiendra, nous et les personnes déjà présentes sur ce champ d'activité, de résoudre au plus vite dans les années à venir.
Alors, je sais aussi, puisque j'ai donné quelques cours dans votre master, que vous êtes quand même une majorité de garçons. Et on parlait un petit peu de ça aussi tout à l'heure pour les écoles de journalisme. Je sais que la problématique évolue un petit peu, mais pas encore énormément. Est-ce que vous sentez que des garçons, que des hommes peuvent s'emparer de ces thématiques, ou est-ce que c'est pas des femmes qui doivent prendre le flambeau, comme le soulignait Sandy Montanaro tout à l'heure, Montanola.
Alors oui, je pense effectivement que des femmes ont intérêt à prendre le flambeau. On va pas forcément pouvoir compter uniquement sur les hommes de ce point de vue-là, mais les hommes peuvent également tout fait se mêler à ce combat qui nous concerne tous aujourd'hui. Et évidemment, moi j'ai la conviction, et j'espère qu'elle est très largement partagée, que à partir du moment où nous sommes tous concernés, nous devons tous agir en ce sens et personne ne doit s'exempter de ce type d'effort.
Est-ce que Charles, vous regardez du sport féminin à la télévision ?
Oui, ça m'arrive, essentiellement du football, après également un peu de basket, oui, ça m'arrive, oui, tout à fait.
Parce qu'on a oublié de le demander à Géraldine Ponce, mais lors de notre dernière conférence, elle soulignait que 80 ou 90%, hein, je pense, des téléspectateurs de sport féminin étaient encore des hommes aussi. Oui. Donc c'est aussi aux femmes à se mettre devant la télé et à commencer à regarder leur sport favori.
Oui, c'est ça. Alors après, je pense que justement, si on arrive à développer la médiatisation du sport féminin, on pourra également toucher la sphère familiale dans sa globalité et amener à ce que les femmes se penchent aussi davantage sur ces programmes. À mon avis, c'est un cercle vertueux à mettre en place comme ce qu'on a évoqué avec mon collègue. Donc voilà, c'est vraiment l'optique à suivre. Je pense que c'est...
Merci beaucoup Charles, merci beaucoup pour cette intervention en direct de la Tour Montparnasse et du Master Audencia. Je laisse la parole à Amandine qui va nous présenter notre deuxième et dernière, cette fois, pause musicale.
Oui, on continuera le débat juste après Girlfriend de Phoenix.
Crochu nous a rejoint. Madame, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous avoir avec nous.
Vous oui, avez, moi aussi, je vous salue.
Vous avez une carrière de sportive, de dirigeante dans le monde du football. Alors pendant la pause musicale, le débat continuait, était encore plus virulent à la table avec des chiffres 7-8% de journalistes féminines. dans le sport, un débat sur les stéréotypes aussi. Mais j'avais envie de commencer par la blague de Laurent Blanc, Dominique, il y a deux jours, quand la journaliste suédoise lui a dit vous passez d'un 4-3-3 à un 4-4-2, et que Laurent Blanc lui a dit ah, vous êtes mignonne, vous connaissez le 4-4-2, ça a dû vous plaire ça, Dominique, non ?
Oui, alors écoutez, on va quand même pas non plus polémiquer sur une seule phrase. Je pense qu'il a été juste, Laurent, assez intelligent pour se rendre compte de la gaffe qu'il a faite quand il a dit « Ah, vous connaissez le 4-3-3 » et la jeune femme a bien répondu, sans s'énerver, en trouvant tout à fait légitime. Elle a posé sa légitimité en disant « Je suis journaliste, il est normal que je connaisse les systèmes de jeu ». Et je pense que c'est ça la meilleure réponse, c'est-à-dire c'est pas la peine de se vexer, c'est pas la peine d'en faire du sexisme ou des mots qui sont forcément violents, même si c'était pas facile à entendre. Et je trouve que sa réponse montre bien le progrès des femmes là-dessus. Je pense qu'on est plus dans le progrès de la communication et de la réponse. Et je pense que finalement, ça va rester anecdotique.
D'accord. Est-ce qu'il y a des réactions à cette table ? Est-ce que ça reste anecdotique, Papia, ce type de réaction un peu machiste quand même ?
Moi, je crois que ça va dépendre de la personnalité de la sportive, en l'occurrence, ou des journalistes avec lesquels ça se passe. C'est vrai que parfois, on peut répondre avec moins de calme que ça, parce que si on y est soumis souvent, ça devient compliqué. Donc, je crois qu'elle a raison, il faut rester malgré tout calme et bien répondre à ces personnes qui ne se rendent pas compte. Je pense que quelqu'un comme Laurent Blanc ne se rend pas forcément compte de l'impact de que c'est quand même ces petites phrases au quotidien peuvent avoir. Donc, il faut pouvoir les faire évoluer intelligemment.
Oui, vous avez raison, mais je pense que la finesse, justement, c'est qu'il s'est rendu compte, et c'est pas forcément évident, il s'est rendu compte de la gaffe, et je pense qu'il a été, lui, désarçonné par la compétence de la journaliste. Je pense que c'est ça le qui s'est passé. Il a été tellement désarçonné, il a dit « Ah bon ?» Et finalement, elle, avec sa réponse calme, posée, vous savez, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est passée de l'état de impensable de ce que peuvent faire les femmes, avec le côté impensable, c'est impossible, blocage, refus, combat, à maintenant on est plutôt dans une évolution de l'impensé, c'est-à-dire que c'est pas vraiment formulé, c'est pas précisé, pas pensé, pas imaginé. Alors c'est à nous de oser à la fois s'affirmer, affirmer et faire penser que non seulement c'est possible, mais c'est naturel et normal.
Dominique, est-ce que les mentalités changeront d'elles-mêmes ou est-ce qu'il faut, on avait ce débat, imposer, solliciter. Vous avez au sein de la Fédération française de foot, beaucoup avec votre énergie, tenté d'imposer des choses, de faire changer les mentalités, peut-être même les réglementations internes. Est-ce qu'il faut les deux ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'il faut plusieurs volets. Je pense que, j'ai été la première femme directrice à la Fédération française de football en 2002, ce qui en soi, c'est pas parce que c'était le football, mais parce que c'était aussi dans l'entreprise, parce que ça aussi, il ne faut pas oublier, il y a l'entreprise, il y a la politique, il y a le sport. Le sport, c'est peut-être le focus le plus intéressant, enfin, en tout cas, c'est ma passion. Et je pense qu'il y a deux volets. Il y a effectivement les femmes qui doivent s'affirmer, nous devons oser prendre la parole, et je remercie en cela de m'avoir invité. Mais je crois que la vraie révolution, parce qu'autrement, on va faire encore la journée de la femme, le week-end du sport et de la médiatisation, on va faire plein de choses, et dans 50 ans, on n'aura pas avancé. Je crois que la vraie révolution vient de l'enfance, et ce qui est fait avec l'expérimentation de la ABCD de l'égalité dans l'académie, où effectivement on va montrer aux garçons et filles, on va leur proposer des activités, ils vont pouvoir avoir le libre choix, ils vont pouvoir être ce qu'ils ont envie d'être. Et je pense que c'est sur l'enfance qu'on doit énormément travailler pour que les stéréotypes petit à petit évoluent et s'amoindrissent sur le rose, bleu, sur le choix des jouets, etc. Je pense que la vraie clé, elle est là. Autrement, on n'a pas fini de faire encore des journées pour les femmes qui sont indispensables. Vous vous rendez compte, Juliane, que en 2014, ça fera 40 ans que Françoise Giroud avait été nommée pour la condition féminine. Alors, à la fois, c'est fantastique ce qui a été réalisé depuis, puis je crois qu'aujourd'hui, les droits de la femme, l'égalité. Mais au fond, l'égalité, je ne sais pas si on la réclame, parce qu'on la réclame sur les droits, mais je pense que surtout ce qui est ressenti, c'est l'égalité. C'est la notion d'injustice qui est récurrente. Alors bien sûr, l'égalité, c'est le droit, c'est par l'enfance, effectivement, de la proposition et des sports et des jeux et de la responsabilité. Mais ensuite, c'est effectivement, quand ça n'a pas été fait comme le collectif, quand quelqu'un dit « est-ce que je vaux moins qu'un homme ?», moi je trouve ça, c'est très touchant, c'est violent. C'est, voilà. Et donc je pense qu'on aura moins ces phrases-là dans 20 ans, parce qu'on sera passé par l'équité et l'égalité, appelée qualité des chances, l'égalité des sports et de la pratique offerte aux enfants.
Moi, vous êtes quand même, Dominique, vous êtes quand même dans ce collectif « Est-ce que je vaux moins qu'un homme ?» avec beaucoup de sportifs de haut niveau qui l'ont rejoint et des sportifs de grande notoriété, Laura Flessel en particulier. Vous pensez que les sportifs de haut niveau doivent créer ce type de collectif pour se faire entendre ?
Peut-être justement, c'est peut-être à la fois bien et pas bien. C'est-à-dire autrement, on va tous créer, alors on va créer par exemple un collectif du haut niveau, un collectif des dirigeantes, un collectif des politiques, un collectif de l'entreprise. Alors moi je les rejoins parce que la difficulté à accéder au poste de responsabilité, ça situe bien la problématique de la femme. Vous savez, les choses auxquelles on, comme je disais tout à l'heure, de l'impensé. Par contre, le haut niveau, bien sûr, je comprends, mais moi j'ai envie que ce soit plus large, que ce soit une vision plus large, que ce ne soit pas que le haut niveau. Autrement, on va faire 200 associations ou 200 mouvements différents. Faisons plutôt cette évolution avec les hommes, parce que je crois que c'est aussi les hommes, il ne faut pas non plus, moi je ne suis pas dans le féminisme, je veux dire, hein. C'est surtout l'équité. Et la possibilité
oui, les hommes ne sont pas tous... J'avais un texto d'une personne qu'on connaît très bien ici, qui est proche de vous. Les hommes ne sont pas tous misogynes, archaïques dans la gouvernance du sport et on ne met pas toujours les femmes dans un coin de la table.
Mais plutôt justement, vous voyez, j'avais envie de parler des hommes aussi parce qu'à la limite aujourd'hui, eh ben voilà, Juliane, vous êtes là et vous nous permettez. C'est comme ça, vous nous permettez, c'est comme ça. Et puis demain, c'est peut-être madame, une autre demoiselle ou une personne qui gérera l'émission et ce ne sera plus Juliane qui sera devant parce qu'en fait c'est ça.
Merci
et je
Dominique.
Pense que c'est aux femmes aussi de s'affirmer.
Merci beaucoup Dominique. Est-ce qu'il y en a une réaction en plateau?
Oui, Sandy. Moi je pense que la question est intéressante parce que ça se pose dans les médias, c'est une des explications de la sous-médiatisation des sportifs qui est fréquemment avancée, c'est effectivement de revenir au fait qu'il y ait en moyenne 90% de journalistes hommes et toutes les enquêtes qui ont pu montrer que sur ce sujet-là, en fait, on a évidemment des représentations sociales, c'est pour ça qu'on revient sur cette importance des représentations sociales qui sont partagées, donc partagé par les hommes et par les femmes, donc y compris par certaines femmes journalistes de sport.
Merci beaucoup. On va conclure cette première émission de l'année 2014, mais je pense que c'est une thématique qui reviendra probablement dans l'année. Et je vais laisser la parole maintenant à Amandine qui va nous donner un petit peu l'agenda du think tank Sport et Citoyenneté.
Oui, alors à l'agenda de Sport et Citoyenneté, donc il y a plusieurs événements prévus pour ce début d'année 2014. Donc tout d'abord, courant janvier, la sortie de notre revue sur le thème de l'intégrité et les valeurs du sport. Le 30 janvier, Sport et Citoyenneté est co-organisateur d'un séminaire qui s'intitule « Sport et activité physique en Europe », donc un séminaire au Parlement européen à Bruxelles, en partenariat avec la FESI et sous le patronage de Sophie Oconi et du groupe interparlementaire « Friends of Sport ». Le but de ce séminaire, c'est vraiment de mettre l'activité sportive à l'agenda de l'Union européenne. Ensuite, le 31 janvier, Sport et Citoyenneté organise une table ronde sur la reconversion des sportifs de haut niveau à l'INSEP à Paris. Le 1er février, à l'occasion des 24 heures du sport féminin, Sport et Citoyenneté organisera deux événements. Le premier, une table ronde sur le thème de la médiatisation du sport féminin. Et le deuxième, un talk show sur Eurosport. Et enfin, en février 2014, donc le think tank Sport et Citoyenneté organisera une conférence sur le thème Sport et handicap en Europe. La date est encore à définir. Et pour terminer, donc une publication sur le même thème, Sport et handicap, qui sortira également en février. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations et les adhésions à Sport et Citoyenneté, rendez-vous sur le site www.sportetcitoyenneté.com.
Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup pour cette première émission avec Euradio et avec Audencia. L'école Business School de Management et le master spécialisé MOS. Merci à tous.
C'était Sport et Citoyenneté. Retrouvez cette émission en podcast sur euradionantes.eu.